SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 136, comme à l'accoutumée, je suis Christophe Mallet, je vous présente cette émission avec mon acolyte Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, ravi de te retrouver.
C'est beau comme mot acolyte.
C'est très beau comme mot.
On peut faire une réflexion là-dessus, on va parler d'acolyte d'ailleurs pour la France, pour l'Europe et la Suisse. Ça va être notre premier sujet et en deuxième sujet on parlera de l'Égypte et un accord à coût de milliards pour l'Union Européenne. Ce sera la deuxième partie donc de cette Europa Voice, mais tout de suite on commence avec la Suisse. Suisse, qui est un pays vraiment physiquement, alors au cœur de l'Europe, hein, je pense qu'on peut pas être beaucoup plus au centre de l'Europe aujourd'hui que la Suisse. Pourtant, c'est un pays qui n'est pas au sein de l'Union européenne et c'est un pays qui a longtemps tergiversé sur sa relation même avec l'Union européenne. Ça pourrait changer.
Effectivement, Christophe, l'Union européenne et la Suisse entament des nouvelles, et j'insiste sur ce mot, nouvelles négociations pour approfondir leurs relations bilatérales.
Des nouvelles et des énièmes négociations, ça fait un moment comme ça discute.
Alors effectivement, la Suisse et l'Union européenne avaient un peu rompu les discussions en cours en 2021. Il faut savoir que si la Suisse n'appartient pas, Christophe, à l'Union européenne, il y a des accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse.
Des accords qui faisaient rêver les Britanniques au moment du Brexit. On a beaucoup parlé à ce moment-là.
Exactement. Il y a un peu un côté, en fait, avec ces accords. Je suis désolé de simplifier, mais c'est une bonne image, je pense. Il y a un peu un côté le beurre et l'argent du beurre.
Le beurre suisse, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver un terrain d'entente parce que la Suisse ne peut pas profiter pleinement des faveurs et des largesses de l'Union européenne s'il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est très difficile en fait de négocier ces accords bilatéraux. La première chose, Christophe, c'est que ces accords bilatéraux évidemment concernent un certain nombre de domaines, de secteurs qui sont à chaque fois spécifiques au pays. Et puis ils prennent en compte aussi les réalités, j'allais dire, géographiques et démographiques dans le cadre de la Suisse, puisque par exemple, pour notre voisin helvète, il y a tout l'aspect des travailleurs transfrontaliers qui est à prendre en compte.
Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, en France, hein, quand on habite en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura, et qu'on est un fameux transfrontalier, on doit transpirer à l'idée même de penser que la Suisse pourrait revenir dans l'Union européenne, parce que c'est un statut très particulier et souvent très avantageux quand même.
Bah, il y a un côté pouvoir d'achat, en fait, hein, pour encore une fois, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. Le fait qu'un travailleur transfrontalier, par exemple, habite en France, mais soit payé et travaille en France, Suisse, évidemment, ça a plein d'avantages, choses qui sont amenées à changer dans le cadre d'un approfondissement des relations bilatérales, choses qui aussi sont amenées à changer parce que on parlait dans notre précédent numéro d'Europa Voice du plombier polonais, mais pour les Suisses, en l'occurrence,
ah, c'est le plombier français.
Il est français, exactement, Christophe. Mais ça recouvre aussi, enfin, il y a ces accords et il y a ces progrès dans ces accords bilatéraux parce que la Suisse et l'Union européenne, il y a une réalité. Hein. En fait, on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais l'Union européenne, ça c'est un peu évident, est le premier partenaire commercial de la Suisse, bien sûr, mais la Suisse est aussi le quatrième partenaire de l'Union européenne. Et ça,
c'est
pense
énorme,
que trop peu de gens le sous-estiment. C'est-à-dire que l'Union européenne a aussi besoin, Christophe, de la Suisse par cette position géographique particulière qui va de l'Alsace à la Savoie en termes de frontières.
Et pas simplement pour des produits financiers. La Suisse, c'est aussi beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de technologies de pointe, voire de très haute pointe, si on peut s'exprimer ainsi. La Suisse, enfin, les deux entités ont besoin d'elles, de l'une de l'autre, en fait. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui.
C'est une réalité, effectivement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour parler ces discussions. On a effectivement tout de suite en tête le monde de la finance, peut-être le luxe, mais c'est sur bien d'autres secteurs que ces discussions ont lieu en ce moment. C'est sur les questions de l'électricité, par exemple, la question des transports terrestres, la question de la libre circulation des personnes.
L'agriculture.
Donc, en fait, on est aussi sur des domaines, j'allais dire, qui vont un peu au-delà du simple cliché de pourquoi la France ou l'Union européenne et la Suisse entretiennent des relations de commerce et bilatérales.
Alors, quand on pense, nous, à la France, forcément, on pense à la Suisse francophone. La Suisse est quand même grandement un pays germanophone, un petit peu germanophobe d'ailleurs, on peut en parler, mais quelle est justement la relation entre la Suisse et l'Allemagne et est-ce que ça peut influencer une certaine balance au sein de l'Union européenne? Aujourd'hui, on parle beaucoup du couple franco-allemand. Qu'est-ce qu'il en est du couple allemano-suisse? C'est une relation qui doit être aussi difficile. Où est-ce qu'il y a une notion de grand frère à petit frère? Comment ça se passe?
Bah, il y a la notion du plombier allemand. Français, elle est aussi vraie pour le plombier allemand. Elle est vraie aussi pour le plombier italien parce qu'il y a une partie de la suite italophone. Il y a une grande frontière. Avec des
lacs superbes, hein, si vous êtes allé. Enfin,
et puis une des montagnes les plus belles et les plus grandes d'Europe, le Cervin.
Ouais, tout à fait.
C'est la séparation entre Cervinia et Zermatt, voilà, pour les amateurs de montagne. La réalité aussi, est, parce que votre question, elle est sur la géographie. Pour nos auditeurs d'Europa Voice, et ça fait le lien d'ailleurs avec notre épisode précédent sur la Bosnie-Herzégovine, si vous prenez en face de vous une carte de l'Europe, à l'heure actuelle, comme il y a des discussions avec les pays des Balkans occidentaux, qui sont en fait la dernière discontinuité géographique dans l'Union européenne, puisque à l'est on a la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie, à l'ouest on a la Slovaquie, la Slovénie et l'Autriche, et donc il y a une espèce de petite montagne où il y a les 6 pays des Balkans. Si ces 6 pays des Balkans, comme ça semble être le cas, vont accéder dans les prochaines années à l'Union européenne, le dernier pays au sein de cet ensemble politique mais géographique qui va du Portugal à la Russie, le dernier pays qui n'appartiendra plus à l'Union européenne, ce sera la Suisse.
Le fameux village gaulois suisse. Hein.
Exactement, ce fameux village gaulois suisse. Donc, il y a aussi cette question, effectivement, de... Je crois que c'est très lié, hein, ça peut paraître lointain, mais c'est très lié, en fait, le fait qu'il y a eu un fast-track ukrainien, qu'il y ait une accélération de tous ces pays des Balkans occidentaux qui étaient dans l'antichambre de l'Union européenne pendant près de 10 ans, et qu'il nous reste encore ce petit village suisse, dernier pays potentiellement à ne pas encore appartenir à l'Union européenne. Et ça explique aussi pourquoi il y a une proactivité de l'Union européenne d'entamer ces discussions, de continuer ces discussions. Et puis, peut-être aussi deuxième élément, Christophe, il y a les élections européennes encore en juin. Et il y a, à l'inverse de la technique de la terre brûlée, Ursula von der Leyen qui veut faire tous les coups et les meilleurs coups possibles avant de se représenter et donc effectivement aussi conclure ces accords bilatéraux dans le long terme qui ne mangent pas spécialement de pain, enfin qui ne sont pas tellement risqués en fait finalement à court terme, bah c'est aussi une manière pour elle de dire bah voilà, j'ai aussi fait avancer ce dossier de l'intégration, de l'élargissement avec des partenaires essentiels pour l'Union européenne.
Et à Berne, on en pense quoi? On est parce que c'est vraiment pour ceux qui connaissent la Suisse ou qui connaissent pas la Suisse, hein, mais c'est un pays qui est un peu atypique dans le sens où il y a vraiment on sent qu'on est au sein de l'Europe. Par contre, on est assez fier de pas être au sein de l'Europe. Il y a vraiment cette ambivalence du côté suisse et ça va peut-être jouer. On parlait du côté allemand, du côté c'est aussi une division au sein du pays. Je pense que quand on est francophone, on est peut-être un peu plus porté vers l'Europe que quand on est germanophone. Il y a une vraie division politique, mais à la fin du jour, hein, at the end of the day, comme on dirait en anglais, la Suisse, c'est dirigé par les germanophones. C'est Berne, c'est une ville germanophone. Les Suisses romands ont un peu moins à dire que les Allemands, quand même, politiquement en Suisse.
Bah, il y a un aspect, effectivement, où...
Le pouvoir, on voit où il est, en tout cas.
Effectivement, il y a toujours un leadership du pouvoir germanophone en Suisse. Il y a aussi une réalité, politique locale. D'abord, c'est le système de votation,
ouais.
Le système de référendum, donc c'est-à-dire demander, en fait, aux habitants
référendum
leur avis
populaire.
Voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort dans cette espèce de démocratie directe, qu'on pourrait appeler aussi participative, qu'on essaye des fois de distiller en France notamment. Bah, c'est beaucoup plus vrai en Suisse. Hein, les questions de référendum, on avait beaucoup parlé en France à l'époque sur des sujets notamment liés aux religions, à ces vendeurs dans les journaux. Et puis, il y a aussi une réalité politique, d'un échiquier politique qui est plus à droite. Et donc, on a déjà eu des premières réactions, par exemple, de l'Union démocrate du centre, qui, contrairement à ce que son nom indique, est plutôt une formation de droite radicale et qui est le premier parti politique de Suisse, a déjà signifié en fait qu'elle dénoncerait ce que eux appellent, hein, cette Union démocratique du centre, cette soumission totale de la Suisse à l'Union européenne. Donc c'est pas gagné, parce que là c'est des accords, il faut encore que ça passe devant les élus suisses, par le référendum et l'acceptation populaire. Et donc effectivement, le côté un petit peu conservateur, plutôt germanophone, allemand, peut faire que ces accords et ces projets bilatéraux restent lettre morte in fine, et qu'on continue simplement à avoir cette espèce de réalité entre les deux pays, parce qu'il faut bien, entre les deux ensembles, la Suisse et l'Union européenne, parce qu'il faut bien cohabiter, parce que les frontières sont communes et parce qu'il y a encore une fois une réalité sur le terrain de ces travailleurs transfrontaliers, de ces échanges de biens et de personnes, et l'importance de ce partenariat commercial entre l'Union européenne et la Suisse.
Et la neutralité suisse a été est légendaire aujourd'hui, donc peut-être elle perdurera dans le temps, de cette neutralité non européenne, n'appartenant à aucune entité, mais faisant du commerce un peu avec tout le monde. C'est un peu dans l'ADN des Suisses, ça, quand même, aussi.
Oui, mais la neutralité, Christophe, c'est aussi quelque chose qui peut changer, hein. Après 30 ans de neutralité, oui, suédoise par rapport à l'OTAN, on l'a bien vu, ce revirement. Donc si la neutralité suédoise est capable d'évoluer, est-ce que la neutralité suisse, de la même manière que le secret bancaire suisse, a aussi évolué? À voir de très près.
Ouais, affaire à suivre en tout cas. C'était donc la première partie d'Europa Voice. On fait une courte pause et on parle de relations entre l'Union européenne et l'Égypte tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Deuxième partie d'Europa Voice, je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Alors cette fois-ci, on va passer une mer, on va passer de l'autre côté de la mer Méditerranée. On va parler de la relation entre l'Union européenne et l'Égypte. Alors je disais en intro donc de ce podcast, à coups de milliards, on parle de 7,4 milliards d'euros, cette relation. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors l'Union européenne, Christophe, et l'Égypte viennent de signer un accord de partenariat pour effectivement 7,4 milliards d'euros. La présidente de la Commission s'est déplacé avec plusieurs premiers ministres européens, la première ministre italienne, mais aussi grecque et belge, pour signer cet accord un petit peu historique, finalement, quand même, entre l'Union européenne et l'Égypte, parce que l'Union européenne, en fait, est dans un processus, on a parlé de la Suisse, hein, dans les accords bilatéraux, mais dans un processus, en fait, de traiter pays par pays, puisque là, avant l'Égypte, c'était la Tunisie, pour gérer un petit peu, en fait, des politiques propres à l'Union européenne. Là, en l'occurrence, c'est les politiques migratoires. Bah, pour gérer les politiques migratoires, Christophe, il faut aussi que les pays limitrophes à l'Union européenne, et d'une certaine façon, l'Égypte, il n'y a qu'une mer qui les sépare de l'Italie et de plein d'autres pays, a besoin aussi, l'Union européenne a besoin de traiter avec l'Égypte pour s'assurer que ces questions migratoires, que l'agence Frontex puisse avoir les coopérations politiques nécessaires pour réguler son immigration en Europe.
Et l'Égypte, hein, c'est aussi un pays pivot et qui est très important dans la politique au niveau du Proche-Orient. C'est vraiment important d'avoir l'Égypte comme un allié, puisque c'est vraiment un pays qui a un rôle à jouer pour la paix dans la région là-bas.
Oui, effectivement, Christophe. Alors, il y a évidemment le
Est-ce qu'on en parle de ça au niveau du européen? Est-ce que ça fait aussi partie des discussions et du rôle que l'Égypte pourra jouer pour l'Europe?
Évidemment, il y a en toile de fond de cet accord qui vient d'être signé entre l'Union européenne et l'Égypte, le conflit en cours entre Israël et le Hamas à Gaza, parce qu'il y a cette crainte aussi de réfugiés palestiniens. Mais c'est finalement une seule partie de ces migrations, parce que il y a aussi la question, par exemple, des Soudanais et des immigrants clandestins soudanais, des immigrants clandestins libyens.
Les Yéménites aussi.
Et Yéménites. Et puis sur cette question de la sécurité, il y a aussi toute l'instabilité en ce moment en mer Rouge, et ce conflit à peine larvé avec les Houthis, qui font que aussi, d'un point de vue là purement économique, l'Égypte pâtit de ces conflits.
Ouais, tout à fait.
Et donc cette enveloppe budgétaire, parce qu'il y a une partie qui est pour gérer ces problèmes et renforcer ces questions de migration, mais il y a aussi une partie aussi d'aide économique à l'Égypte, ben ça tombe à pic pour le pays qui justement souffre en fait de cette instabilité régionale sur plusieurs fronts en ce moment.
Et c'est reçu comment au Caire?
Alors au Caire, c'est plutôt bien reçu, hein. Finalement, c'est une aide qui vient encore une fois dans un bon timing. C'est plutôt au niveau de l'Union européenne, Christophe, où certaines voix s'élèvent.
Vous m'étonnez.
pour dénoncer en fait un accord avec un régime, il est vrai, autoritaire, hein, depuis qu'il est au pouvoir Al-Sisi, il y a eu quand même le renforcement de certaines lois qui d'ailleurs ne sont pas forcément alignées avec les prérequis que l'Union européenne demande notamment à certains pays pour
j'allais vous poser
bénéficier
cette question.
De ces aides. Et puis aussi, il y a un côté quand même où on achète un peu la coopération, en l'occurrence migratoire. Est-ce que cette enveloppe de 7,4 milliards, ce n'est pas une façon effectivement d'aider l'Égypte, mais aussi d'acheter cette coopération et de fermer un peu les yeux sur des problématiques notamment liées aux droits humains, où encore une fois, l'Europe se targue plutôt d'avoir un rôle modèle dessus, et puis là, ferme un peu les yeux parce qu'il y a ce besoin, il y a cette réelle politique, on en revient toujours, Christophe, cette réelle politique au niveau des questions migratoires.
Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est aussi le rôle de Ursula von der Leyen, c'est elle qui aussi porte le drapeau de cette initiative, je serais tenté de dire, et on le disait en première partie de Europa Voice, ça vient encore une fois avant les élections européennes, ça montre pas mal d'actions, en tout cas sur le papier d'Ursula von der Leyen. Il y a aussi un élément politique pour l'Europe.
Il y a un élément très politique, Christophe. Si on prend juste le mois de mars 2024, Ursula von der Leyen, c'est quand même la réouverture des discussions avec les pays des Balkans occidentaux, et notamment l'accélération du processus pour la Bosnie-Herzégovine. C'est les accords bilatéraux bloqués depuis 3 ans avec la Suisse qui viennent de reprendre. C'est cette enveloppe budgétaire, financière pour l'Égypte. Donc,
les discussions avec le Canada, hein, le CEDA aussi, qui
libre-échange avec le Canada. Donc il y a une vraie effectivement proactivité de la présidente de la Commission. Il y a un agenda politique, il y a ces élections du 6 au 9 juin prochain. Mais il ne faut pas non plus simplement penser que c'est sur les questions, j'allais dire, qui vont bénéficier à l'Europe d'un point de vue sécuritaire. Il y a aussi le conflit russe un peu en toile de fond. Il y a la question d'aider l'Égypte à se développer sur les projets d'investissement dans la transition verte et numérique. Il y a la question de l'énergie, parce qu'en toile de fond, il y a aussi toutes ces questions de gaz, par exemple, et d'approvisionnement des routes fluviales commerciales de la mer Rouge. Je fais juste un petit clin d'œil historique, hein, mais la mer Rouge, ça peut paraître un peu anecdotique, petit, mais c'est de là dont un énorme conflit a eu lieu en 1956 avec la France, l'Angleterre, l'Égypte, Israël.
Pour le canal de Suez.
Le canal de Suez, ça s'est passé dans la mer Rouge, hein, et ça n'a pas impliqué que l'Égypte. Donc en fait, il y a aussi tout ça en toile de fond. Il y a cette instabilité qui fait que l'Union européenne a tout intérêt, encore une fois, à conclure ces partenariats. Là, c'est l'Égypte, c'est venu après la Tunisie, et puis il y a d'autres pays, c'est venu aussi après la Turquie. Il y a aussi un rapprochement finalement plus économique que politique avec la Turquie ces derniers mois. Donc il y a tout ça en toile de fond. Il y a l'agenda politique, mais il y a aussi la réalité sur le terrain.
Et la Turquie qui joue un rôle prédominant dans les relations avec la Russie également. La Turquie, c'est un peu le cheval de Troie européen pour la Russie, on peut le dire.
Alors si les Balkans étaient effectivement dans l'antichambre pendant une décennie, la Turquie, elle est dans l'antichambre depuis 30 ans. Mais voilà, il y a aussi ça. Hein, c'est la nature a horreur du vide, Christophe. Donc si c'est pas la Turquie qui prend le lead de la région, c'est une autre puissance. Si l'Union européenne n'est pas proactive pour nouer ses partenariats, c'est le voisin russe, c'est même les Chinois. Donc effectivement, il y a toutes ces boules de billard à plusieurs bandes qu'il faut maîtriser. Et puis il y a surtout aussi, la volonté de l'Union européenne, là pour le coup, de s'afficher comme un partenaire vers une solution de paix dans la région, et donc aller aussi sur le terrain et de montrer à l'Égypte qu'elle est prête à aider pour gérer ce qui se passe à sa frontière, parce que rappelons-le, hein, Gaza, et surtout Rafah, est à la frontière avec l'Égypte. L'Égypte est en train de construire un mur de plusieurs mètres aussi, mais c'est des solutions transitoires. Donc c'est important aussi que l'Union européenne se positionne comme facteur de paix et de stabilité dans la région.
Absolument. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.